Nous sommes encore en train de continuer la petite série d'études sur les nouvelles positions qu'on a en Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça nous bénit au bout. À mesure qu'on avance, on découvre des nouvelles facettes de ce qu'on est rendu en Jésus. C'est des déclarations de Dieu qui nous déclarent, mais maintenant, à cause qu'on est né de nouveau, on a obtenu tel statut, telle position en Jésus. Puis on apprend à découvrir les différentes facettes que Dieu veut qu'on réalise, les différentes facettes de ce que nous sommes en Jésus. Parce qu'on est en train de se faire équiper, puis en même temps, ça ouvre nos yeux sur une vision, ça élargit notre vision des choses pour qu'on comprenne encore plus dans quoi qu'on avance en tant que chrétien. Puis merci Seigneur de toutes ces révélations-là. On a vu plusieurs statuts jusqu'à aujourd'hui. S'il y en a qui disent « Oh, j'aimerais ça les réécouter » ou « J'en ai manqué », allez sur le site internet publicationévangélique.com. Ils sont tous là. Puis vous pouvez les lire et les écouter parce qu'ils sont tous enregistrés. Merci Seigneur. Puis ça fait partie de la technologie qu'on a aujourd'hui, puis il faut en profiter. Faut pas être gêné de ça. On n'est pas gêné d'ouvrir la lumière pour avoir de l'éclairage dans la pièce. C'est la technologie. Mais le son, puis l'audio, tout le kit qui est enregistré, c'est la technologie. Faut pas avoir peur de ça. C'est une bénédiction que Dieu a faite. Puis il a même prévu d'avance, il y a un verset, je vais vous sortir un moment donné, dans l'Ancien Testament, que Dieu avait prévu que la bonne nouvelle soit annoncée sans qu'on ouvre la bouche quasiment. Il y a un verset qui le dit. Puis vous allez être surpris de voir que c'est en train de se faire par les médias, la radio, la télévision, l'Internet. C'est voulu par Dieu que la bonne nouvelle se répande parmi toutes les nations. C'est rendu accessible à tous ceux qui se branchent.
Essaye juste de nous enterrer, OK?
De vous enterrer?
Ben parce que c'est lui qui chante. Je veux pas, je veux que ce soit...
Oui, mais aujourd'hui, merci Seigneur qu'on puisse utiliser les médias. Il faut rendre grâce à Dieu que tout est là, puis il y en a d'autres qui les enregistrent, puis ils peuvent les écouter aussi même par l'Internet. Merci Seigneur. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, que nous sommes grâce au Christ devenus des soldats de l'armée de Dieu. On a chanté plein de beaux chants tantôt qui a rapport à cela, que nous sommes l'armée du Seigneur, que le Seigneur marche au-devant de nous. Ces chants-là n'ont pas été écrits juste parce qu'ils cherchaient de quoi un sujet à écrire, puis ont décidé que ça serait beau qu'on chante cela. Non, c'est parce qu'il y a des versets sur lesquels c'est basé dans la parole de Dieu. Ça sort de la parole de Dieu, ces chants-là. Et Dieu, il veut nous faire comprendre un aspect de notre vie chrétienne, du fait qu'on est né de nouveau, que nous sommes maintenant des soldats de l'armée de Dieu.
Amen!
On est présentement, même si on est confortablement sur notre chaise, on est présentement en guerre. Il y a une guerre qui est en train de se dérouler. On voit des résultats de cette guerre-là par des choses qui se passent dans les différents pays où il y a vraiment de la guerre physique. Mais avant qu'elle arrive à la guerre physique, il y a une guerre spirituelle dans le monde invisible qui est en train de se dérouler. Puis ce qui se passe dans le monde physique, c'est comme les retombées, les effets secondaires. La guerre n'est pas finie. Jésus va mettre un terme à cela, mais qu'il revienne. En attendant, on est encore en guerre, frères et sœurs. L'armée de Dieu est en train de se battre. Pendant qu'il y a des chrétiens qui se la coulent douce, ça, il ne faut pas être gêné de le dire, si le chapeau nous fait rondement, il y a des chrétiens qui se la coulent douce, mais savez-vous que nous sommes présentement en guerre?
Alors,
il faut le savoir, parce qu'on ne le sait pas, on ne peut pas combattre, on n'est pas dans l'action, parce qu'il y a quelque chose, même peut-être, je dirais, qui est un petit peu plus qu'une guerre ouverte, qui est un peu plus pire qu'une guerre ouverte, c'est une guerre silencieuse, où ce qui permet à tout le monde de s'endormir, puis là on ne bouge plus, puis on ne réagit plus. C'est comme si il nous a, on devient inerte, on devient sans qu'on ne fait plus rien. dans un état de léthargie, pendant qu'on est endormi, comme chloroformé, on devient endormi sur notre position, puis là, on ne réagit plus pour avoir un impact dans cette guerre.
Voilà.
Mais là, on est là pour se le rappeler. Le Seigneur, c'est pas pour rien qu'il nous mette ces beaux versets-là dans sa parole, puis les chants, pour nous stimuler, pour réveiller en nous notre conscience, pour qu'on réalise dans quel état nous sommes, puis là que c'est le temps de combattre. Il y a une guerre, puis c'est des fois au prix de notre âme. Notre âme est en jeu. Je ne te dis pas que là, elle l'est présentement. Quand tu es réveillé, elle ne l'est pas. Tu es bouillant avec le Seigneur, tu marches avec le Seigneur, mais si on s'endort, il y a un grave danger. Puis autant que l'autre aussi que j'ai entendu, il est en danger. Il y a une guerre terrible qui se perpétue depuis le début d'Adam et Ève sur la terre, puis même la guerre a commencé avant dans les lieux célestes par la rébellion du diable et tous ses démons contre l'autorité de Dieu, puis qui ont voulu usurper la gloire de Dieu, car la gloire qui aurait dû appartenir à Dieu sur cette terre. Le diable, il l'a usurpé, il a pris la place de Dieu, puis il a pris la gloire pour lui. Cette guerre-là est entre l'armée de Dieu et l'armée des ténèbres.
Amen.
Il y a une guerre qui est la source de tous les troubles qu'il y a dans ce monde.
On est plus que vainqueurs.
Nous sommes maintenant plus que vainqueurs, mais baissons pas les bras, la guerre n'est pas finie. C'est comme si on est au front, on dit, on est vainqueurs, on baisse les bras, puis on se fait embarquer par de sa tête. Dieu veut que nos yeux s'ouvrent pour que nous soyons sur nos gardes et que nous combattions sans relâche. Oui. Éphésiens 1, 18, Paul, dans ce verset-là, il dit qu'il priait pour que Dieu élimine les yeux de notre cœur pour que vous sachiez. Ça, là, c'est une belle phrase, c'est un beau texte qui nous fait prendre conscience qu'on a besoin de prière pour que les yeux de notre cœur s'ouvrent afin qu'on sache. Et même quand tu finis par, parce qu'il y a des raisons, tu finis par oublier, tu as besoin encore que tes yeux s'ouvrent afin que tu saches. L'important, c'est qu'il faut que tu saches qu'est-ce qui se passe. Si tu oublies ce qui se passe, tu passes à côté. Tu peux peut-être être en train de te faire piétiner, tu ne sais pas. Il est important qu'on réalise ce qui se passe. Il veut qu'on sache. Là, il demande pour qu'on sache que nos yeux s'ouvrent. Ça se demande en prière. Parce que c'est un combat spirituel, c'est dans le monde invisible, puis on ne voit pas automatiquement tout ce qui se passe autour. C'est un peu la même image que le prophète Élisée dans l'Ancien Testament, il avait prié pour son serviteur. Parce qu'il est entouré par une armée qui s'en venait, le prophète Élisée. Il y a une armée qui s'en venait pour le saisir, lui et son serviteur. Puis là, son serviteur était affolé, puis lui, le prophète Élisée, il s'en faisait pas trop. Puis là, l'autre, il dit, « Hey, il y a toute une armée qui s'en vient. » Inquiète-toi pas. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont là, là que tu vois là. Dans 2 Rois 6, 16 et 17, ça dit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Lui, il était tout seul avec le prophète. Là. Lui, il ne comprenait pas. Pourquoi il ne comprenait pas? C'est parce qu'il ne voyait pas ce qui se passait. Puis là, ça dit, Élisée pria, il dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Puis l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux, de chars de feu autour d'Élysée. Qui était là? C'était l'Éternel avec ses armées, son armée puissante qui était là autour d'Élysée, le prophète, que lui marchait dans l'assurance que Dieu était avec lui. Lui voyait clair, puis il savait qu'est-ce qui se passait spirituellement parlant. Le serviteur, lui, bien qu'il connaissait le prophète, bien qu'il avait entendu souvent des versets, il ne voyait pas clair. C'est vrai que ça peut arriver qu'on ne voit pas clair sur le combat et la guerre qu'il y a présentement, mais on a besoin, qu'est-ce qu'on a besoin? Que nos yeux s'ouvrent, qu'on réalise, il y a une guerre, Puis ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui viennent pour nous combattre.
Amen.
Pourquoi?
Amen.
Parce que c'est l'armée de Dieu qui est au-devant de l'armée de Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu lui-même qui est au-devant de l'armée. Merci Seigneur. On l'a chanté tantôt, c'est super bénissant. Savez-vous qu'il y a plus de 300 versets dans la Bible qui font référence à Dieu et son armée? Les textes dans la Bible, il y a plein de passages qui disent l'Éternel des armées. Puis d'autres places, c'est le Dieu des armées. Puis là, d'autres places, le Seigneur des armées. C'est tous des passages qu'on retrouve partout qui parlent, qu'il y a comme une association automatique. Tu parles de Dieu, mais c'est son armée qui est avec. Il n'y a pas de Dieu sans armée. Dieu a son armée qui agit présentement dans ce monde. Il y a des versets comme dans le psaume 24-10, j'en donne juste deux de même, mais il y en a plein. Il y en a plus de 300 versets qui prononcent cette phrase-là. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Mais l'Éternel des armées, ça représente Dieu avec son armée. Il n'y a pas un roi qui n'a pas d'armée. Tous les rois ont des armées. Mais faut connaître l'armée de notre roi. Elle est incroyable. Un autre passage dans Osée 12, 5, il dit « L'Éternel est le Dieu des armées. Son nom est l'Éternel. » Mais ça, il y en a plus de 300 versets qui font référence à Dieu avec son armée. La parole de Dieu nous révèle que Dieu est en contrôle d'une armée puissante. Une puissante armée que Dieu lui-même a créée. Quand il a créé le ciel et la terre, mais il avait déjà créé son armée dans les cieux. Regardez bien ce passage-là, dans Néhémie 9:6. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux. Et la terre, bien entendu, mais les cieux, c'est le ciel, l'univers, c'est lui qui a tout créé. Puis il dit aussi, les cieux des cieux et toute leur armée. La terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Ce verset-là nous met comme dans l'indice que Dieu a créé une immense armée qui est devant lui et qui le sert. Qui se prosternent devant lui. Elles sont à son service. Et Dieu, quand il a besoin de combattants, il les envoie, ils clignent, ils font ce qu'il y a à faire, puis ils gagnent leur victoire. La Bible parle aussi de l'arsenal militaire de Dieu. Son armée n'est pas tout nue. Dans le psaume 68, 17, ça dit « Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers, par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. » Les chars de l'Éternel. Dieu, tantôt, l'image qu'on avait, c'est la montagne. Il dit que la montagne, il vit la montagne pleine de chevaux. Pleine de chevaux et de chars de feu. Mais dans l'autre verset, ça nous dit « Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000 et par milliers, et le Seigneur est au milieu d'eux. » Fait qu'il y a des chars de feu, un peu aussi comme dans l'autre image qu'on voit quand Élie a été enlevé, Dieu a envoyé un char de feu pour aller le ramasser. Ça a tourné comme un tourbillon, cela, ils l'ont ramassé. Mais Dieu en a des milliers de chars de feu. Non, ils sont très équipés.
Daniel, quel verset, ça?
Ça, c'était dans Psaume 68, 17. Puis, il y a d'autres versets qui nous parlent de ces troupes puissantes dans Daniel 7, 10.
Parce que c'est pas ça dans la
Bible. Ben, des fois, c'est l'autre verset à côté, parce que la numérotation n'est pas toujours pareille dans une Bible ou un autre.
Merci.
Psaume 68, 17. De toute façon, si on ne le trouve pas, je vais vous le remontrer après, je vais aller chercher avec mon téléphone.
Ah oui, je l'ai à 18.
C'est ça. Des fois, c'est la numérotation n'est pas pareille d'une ville à l'autre. Dans Daniel 7, 10, ça nous parle de ses troupes puissantes à Dieu. Il nous parle d'une vision que le prophète Daniel a vue. Il a vu une vision des lieux célestes. Il a vu un fleuve de feu qui coulait et sortait de devant Dieu. Là, ça dit, 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Ça commence à faire des anges, une armée incroyable, 10 000 millions qui se tenaient dans sa présence. Quand on sait comme un passage dans l'Ancien Testament où ce que Sanhérib était venu faire la guerre à Israël, 180 000 hommes qui étaient venus pour faire la guerre à Israël, puis Dieu a envoyé un ange la nuit, il les a tués, les 185 000 hommes de guerre, tous morts en une seule nuit, par un seul ange de l'Éternel. Là, il y en a 10 000 millions qui sont là. J'étudie le 10 000 millions.
Ouais.
10 000 millions qui se tiennent à sa présence. Puis pour tout ça, Jésus, lui, il ne s'inquiétait pas quand il est en train de se faire livrer dans le jardin. Il dit, ne crois-tu pas que je peux invoquer mon Père qui me donnera à l'instant 12 légions d'anges puis massacrera tout le monde? Si Jésus a accepté, il a fallu qu'il accepte d'aller à la croix. Puis s'il aurait voulu, il faisait ça de même, puis se flore. Tout le monde aurait été éliminé. On paye Saint-Python, il a créé une nouvelle création avec du monde meilleur que nous. S'il aurait voulu, c'était si simple que ça. Il est tout puissant
Amen.
En lui-même, Dieu, mais en plus, il y a une armée, mais qu'on voit ça, on va tomber à terre. Puis c'est cette armée-là, c'est avec cette armée d'anges puissants-là qui vont revenir au milieu d'une flamme de feu, avec ces anges de sa puissance qui vont revenir sur une nuée du ciel, avec tous les saints qui sont ressuscités, qui marchent dans la gloire, ça va éclairer comme l'éclair qui part de l'Orient jusque dans l'Occident. Ça va le ciel en entier va être éclairé de la gloire de l'Éternel. Un ange avait apparu à côté de Marie, puis ça dit que son vêtement brillait comme l'éclair. Un, mais 110 000 millions.
Wow!
Ça va être incroyable. Le monde va faire tox. Je pense que nous autres, avec, on fait ça. Mais qu'on voit ça, on va être tellement étonnés, on a de la misère à se l'imaginer. Quand on dit que c'est l'Éternel des armées, il est équipé. Il n'y a pas une armée terrestre qui est équipée comme la sienne. Puis juste un de ses soldats sera assez pour détruire tout le monde sur la planète. Fait que si les gens sont encore en vie, c'est parce que c'est Dieu qui les permet. Parce que les anges démoniaques, les démons, puis le Satan lui-même, aura pu exterminer tout le monde, ça fait longtemps, mais ils ne peuvent pas faire au-delà de ce que Dieu leur permet.
Amen.
Que Dieu contrôle toute l'histoire, puis il met des freins à beaucoup de choses. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Puis si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen.
Gloire
à Dieu.
Satan est pratique parce qu'il nous amène à la victoire sans le savoir.
Oui. Mais le Seigneur, c'est que le Seigneur est plus wise.
Oui, il est avant.
Dans plein de versets dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, ça nous dit que Dieu combattra pour nous. L'Éternel combattra pour nous. Quand c'est écrit ça, mais il faut apprendre à se reposer dans ces promesses-là. Dieu est capable de prendre soin de nous. Il est capable de nous protéger dans nos combats. Dans 2 Chroniques 32, 8, il est arrivé une guerre contre le peuple d'Israël. Puis là, le roi de Juda, Ézéchias, lui, il dit, « Eux autres qui ont un bras de chair, en parlant des armées étrangères, c'est un bras humain qu'ils ont pour leur force. » Mais avec nous, c'est l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, le roi de Juda, puis par la suite, ça nous dit que là, l'Éternel a opéré une grande victoire. Mais le point est que quand il nous arrive des problèmes, des difficultés, on sait qu'on est en guerre, on sait qu'on va en avoir des problèmes, sachant que Dieu est avec nous, nous sommes dans son armée, puis son armée est équipée pas à peu près pour faire face à toute éventualité. C'est le Tout-Puissant qui est avec nous. Amen. Une fois qu'on est né de nouveau, faut pas oublier ça, c'est des versets. Une fois qu'on est né de nouveau, nous faisons maintenant partie de l'armée du royaume de Dieu. Oui, il y a de quoi la s'exciter là. C'est là, on fait partie du royaume, puis dans un royaume, il y a ses policiers, il y a son armée, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir assurer la protection à ses sujets. Le royaume, il est bien gardé.
C'est de là qu'il vient pour qu'on
ait plus que oui, à cause de l'œuvre de Jésus. Dans Actes 28, 18, ça nous dit que l'apôtre Paul avait reçu l'appel d'aller partager le message de l'Évangile, qui était pour être un témoin, pour prêcher la bonne nouvelle, tout ça, pour que les yeux s'ouvrent, les yeux des gens s'ouvrent. C'est ce que je vous disais au début tantôt. Faut que nos yeux s'ouvrent, comprendre qu'on peut être dans la victoire, puis qu'on a Dieu avec nous, avec son armée. Faut qu'on réalise, faut pas marcher d'une manière abattue, puis comme si on se pense vaincu. On est sur le côté des gagnants. L'apôtre Paul a dit, afin que tu leur ouvres leurs yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. On est passé à la puissance de Dieu. On est assis comme citoyen du royaume de Dieu. Tout son armée est là. On est on fait partie de l'armée de Dieu.
Amen.
On est dans la chambre de la victoire.
Merci, oui.
On est dans l'acte de la victoire.
Nous avons besoin maintenant de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Parce que là, on n'est pas encore rendu en haut. En attendant, on reste ici en attendant. C'est juste un petit bout. Là. On a à s'équiper de toutes ses armes et sa puissance mises à notre disposition pour combattre les influences sataniques. Parce qu'eux autres, ils ne gênent pas pour nous tenter, pour essayer de nous enfarger, pour nous faire nous dérouter, pour nous attaquer directement parce qu'ils nous lancent leurs traits enflammés qui viennent du malin, des dards, ils lancent. Là, on a mal ici, mal là. Des fois, c'est juste prendre l'autorité dans le nom de Jésus. Chasser ça. C'est parce qu'ils nous attaquent, ils essayent de nous ralentir notre course, ils essayent de nous détourner. Mais nous autres, on le sait, qu'on s'en allait par là. On a avancé. Et il dit, on voit l'ennemi, qu'est-ce qu'on fait? On lui commande, dans le nom de Jésus, de s'en aller. C'est ce qu'on a chanté tantôt. Dans Éphésiens 6, les versets 10 à 13, ça parle à nous, chrétiens, qui sommes ici en tant que soldats. Fortifiez-vous dans le Seigneur, c'est ce que ça nous dit. Puis par sa force toute puissante, il veut t'équiper de sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il y a beaucoup d'armes. Il y a des armes défensives, puis il y a des armes offensives qui sont données par Dieu. C'est son esprit, sa parole, son autorité. Puis là, il nous parle dans un peu plus loin de toute l'armure du chrétien, le casque du salut, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, la ceinture de vérité, le zèle que donne l'Évangile de paix, on a oublié. Il y a toute une armure qui peut équiper un croyant pour qu'il soit pleinement productif et efficace dans ce monde. Contre qui? Pas contre la chair et le sang. Pas contre les gens. Contre les esprits méchants qui sont en arrière dans les lieux célestes. Le combat est spirituel contre les esprits, les démons. Dans ce verset-là, ça dit « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » C'est quoi ça, des ruses? Des manigances.
Des pièges.
Des pièges. Des tentations. Il est rusé, il y a des stratégies pour faire tomber les chrétiens dans le péché, puis nous faire chuter, nous faire attirer, les histoires qu'on voit dans la Bible, il y en a plein, les histoires que les gens ont laissé Satan remplir leur cœur au point de mentir. Un exemple avec Ananias et Saphira. Satan a réussi à s'infiltrer puis leur injecter un paquet de pensées, puis ils ont décidé de passer aux êtres dans une direction satanique. Mais il y a plein d'actions que le diable met, des mensonges, des doutes, nous faire croire que on est pas appelé à rester à l'église, qu'on veut rester chez nous, on veut s'éloigner des chrétiens, on se nourrit de psychologie, de sciences du monde, puis de choses de ce monde, plutôt que de se nourrir de la parole, puis d'être rempli du Saint-Esprit, puis de rester connecté dans la prière. Il essaie toutes les manigances pour essayer de nous faire chuter. Mais là, il nous dit, revêtez-vous de toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses. Là, tu as une position à prendre. Tu es un combattant, tu es un soldat. Puis quand tu en as un qui est là devant toi, le blé t'attaque, il faut que tu bloques son coup et tu contre-attaques. Jésus l'a fait, puis il sert le verset. Il est écrit. Quand c'est écrit, c'est un coup d'épée que tu lui donnes. Lui, il ne peut pas dire rien contre la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est la puissance de Dieu pour notre salut. Autant que ça sert à se défendre, ça sert à attaquer. Amen. Tu déclares des versets, pow, tiens-toi. Ça dit, résistez au diable, puis il fuira loin de vous. Résistez-lui avec une foi ferme. Les mêmes tentations sont imposées à tous nos frères dans le monde. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On n'a pas à lutter contre les humains. Les humains sont plutôt manipulés, sont comme des marionnettes manipulées par l'ennemi. C'est contre les esprits qui les manipulent qu'on a à combattre.
Amen.
Puis ces esprits-là, il dit, on a lutté contre les dominants dans les lieux célestes. Il y a toute une hiérarchie dans le royaume des ténèbres. Il y a des rangs, des grades, des puissances. Puis il y en a qui ont des capacités pour tenter dans la sexualité, il y en a d'autres, c'est de tenter dans le mensonge, d'autres, c'est du vol, puis un autre, c'est un esprit de meurtre, puis un autre, c'est un esprit de violence. Il y a toutes sortes d'esprits. Il y a des esprits impurs, il y a des, qui, c'est eux autres, c'est tout le temps de méditer des corruptions. Il y a des esprits d'amertume qui entraînent la jalousie ou la critique contre les autres, parce que l'amertume, ça fait bien des ravages. Si ça a réussi à rentrer dans une église, c'est pas long que les gens se contaminent les uns les autres, puis les mauvais esprits ont accès. La Bible dit, donnez pas accès au diable, mais si on laisse des péchés dans nos vies, le mauvais esprit a accès, il remplit nos pensées, puis il utilise notre bouche pour contaminer les autres. Là, il y a du ravage qui se fait. Il faut toujours revenir sur ce que le Seigneur nous dit de faire. Pardonne, prie, bénis ton ennemi. Si tu reviens dans le côté de les armes de Dieu, tu vas avoir la victoire, ça va sortir de ta vie, cette amertume-là, puis tu ne seras plus manipulé, puis l'Église va continuer à se fortifier. Voyez-vous? On a lutté contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il ne faut pas penser qu'ils sont des toutous. Ils ont de l'expérience, ils sont beaucoup plus intelligents que les humains. Puis ils ont de l'expérience depuis, ça fait 6000 ans qu'ils sont sur la terre, puis je ne sais pas combien de temps avant qu'ils étaient là. C'est... Ils savent. Ils nous connaissent en plus. Ils sont là autour de nos familles, là. Ils nous ont vus venir au monde. Ils connaissent tous nos points faibles. Ils connaissent tous nos comment est-ce qu'ils peuvent nous affecter. Juste une petite parole, puis des fois, on est comme viré à l'envers parce qu'il était dans des affaires qui étaient sensibles. Là, il nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. On est des soldats, il faut prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand c'est le temps de combattre, c'est quand que c'est le temps de combattre, mais c'est quand qu'il y a une guerre. C'est quand qu'il arrive de quoi, là. Là, c'est pas le temps de baisser les bras, c'est le temps de prendre les armes de Dieu. Tournons-nous tout de suite en prière, dans louange à Dieu, dans la méditation de la parole, confessons les versets de la parole, résistons à la tentation ou aux choses qui essaient de s'infiltrer. Au nom de Jésus, je refuse ces choses-là, puis on le sait qu'est-ce qu'on a à faire, fait qu'on le fait, puis c'est, on a la victoire, c'est garanti à 100%. Ils sont obligés de répondre à ce que Dieu dit. Ils sont obligés. Il n'y a pas un démon qui a résisté à un commandement de Jésus. Il y en a un qui a peut-être argumenté 2-3 phrases, mais finalement, il est parti pareil. Puis, quand les disciples avaient essayé de chasser un mauvais esprit dans un enfant, Jésus leur a reproché leur incrédulité. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, à cause de votre petitesse de foi que ce démon-là n'est pas sorti. Si vous auriez été jusque dans le jeûne, là, bien, cette sorte de démon-là sort que par la prière, par le jeûne. Si tu aurais combattu là, un peu plus fort, il aurait sorti. Mais il ne faut pas baisser les bras. On veut la victoire, on veut que ça sorte.
Insistez.
Amen.
Amen.
Il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Est-ce possible de tout surmonter?
Avec Jésus, oui.
Amen. Avec les armes de Dieu, oui. Tout surmonter et en plus, rester ferme là-dedans. Ça veut dire que tu peux marcher longtemps au-dessus.
Amen.
Amen.
Mais on n'oublie pas de où ce qu'on vient, on se pense pas supérieur, on se pense pas plus fort, puis plus fin, puis plus ci. On a été recruté du milieu des ténèbres. Vrai. C'est vrai, ça?
Oh,
on
oui.
le sait, on s'en rappelle.
Oh, oui.
Nous sommes facilement attirés à y retourner. Mais là, un homme averti en vaut deux.
Ouais.
Continuons notre sanctification, rejetons les ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Dans Romains 13, 2, ça nous dit, la nuit est avancée, le jour approche, où Jésus va revenir. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. C'est les armes de Dieu. Équipons-nous. S'équiper, c'est se fortifier, surtout avec des versets de la parole, les comprendre. C'est ça qui est à le point. Que nos yeux s'ouvrent, qu'on réalise qu'on est en guerre. Réalisons les armes et utilisons-les. Pour un chrétien, il y a différents combats à livrer. On est appelé à différents combats. On voit l'apôtre Paul. Moi, on prend toujours exemple sur l'apôtre Paul, ses combats à lui. Mais on a toutes les armes et la puissance de Dieu pour combattre. On a tout ce qu'il nous faut. Un des combats, dans 2 Corinthiens 10, 4, 5, on va faire ça rapidement. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce n'est pas avec nos capacités humaines, notre intellect qui est bien intelligent, ou notre connaissance, ou nos capacités humaines en relation d'aide, ou en relation humaine. C'est pas le ce qui sort de humain qui est puissant. C'est ce qui vient du Saint-Esprit.
Amen. Amen.
Il dit, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par les vertus de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les âmes spirituelles ont le but d'amener les pensées des auditeurs, premièrement, à renverser tous les faux raisonnements, toutes les idées qui s'élèvent contre Dieu, contre la parole de Dieu, puis amener les pensées des auditeurs à obéir à la parole. C'est ça qui est le but. Quand on est ici, vous êtes là, assis, dans le but d'entendre des versets qui vont comme tasser les faux raisonnements puis les choses qui nous blocs qui nous mettent des arrêts, qui nous nuisent, puis ça nous amène à focusser sur Jésus dit ça, Jésus dit ça. Là, on marche, on veut marcher dans l'obéissance. Ça, c'est ça qui est une arme, une des armes de la puissance de Dieu. Une autre belle arme que j'aime beaucoup dans l'autre verset, nous combattons pour que l'œuvre de salut soit accomplie dans chaque homme et femme autour de nous. Dans Colossiens 1, 28 à 29. Le Paul, il dit, c'est lui que nous annonçons, en parlant de Jésus. On l'annonce, on évangélise, on parle de Jésus. Lui, il est en train de combattre avec les armes de Dieu quand il évangélise. Regardez bien. C'est lui que nous annonçons exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de le présenter à Dieu, tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est à quoi son combat? Mais l'apôtre Paul, il a même équipé de toute la force de Dieu pour être capable d'une chose. Premièrement, de parler de Jésus à quelqu'un. Deuxièmement, l'exhorter, l'encourager à ce qu'il accepte. Puis après ça, il rentre dans l'église, il a accepté Jésus, tu continues à l'encourager. Après ça, tu commences à l'instruire, à lui donner toute la connaissance que la personne a besoin pour grandir en sagesse, mais aussi dans sa... C'est plus que ça, que cela qui vient en lui, c'est qu'il veut présenter cette personne-là à Dieu devenu parfait en Christ. Voyez-vous, le but d'une des armes de Dieu, de la puissance de Dieu, c'est de se servir de la prédication, l'enseignement, pour amener les gens à ce qu'ils deviennent de plus en plus des hommes parfaits. Le but de... Il dit, c'est à quoi que je combats avec la puissance que Dieu m'a donnée. Il combattait à amener des hommes au Seigneur, puis les encourager au début, après ça, les instruire pour que ces gens-là deviennent parfaits devant Dieu. Le but, c'est d'amener le peuple de Dieu, les auditeurs, à grandir dans le Seigneur, à devenir des hommes et des femmes rendus parfaits par la parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit aussi, bien entendu. Mais des fois, on voudrait tout le temps que les guérisons. Oui, on veut des guérisons physiques, mais ce n'est pas le seul but à atteindre dans l'Église. Le but, c'est prédication, enseignement, qui équipe le peuple de Dieu pour qu'on devienne inébranlable, devenir parfait, des gens qui sont capables de se défendre, puis gagnent une victoire, puis marchent dans la foi, puis qu'eux-mêmes, après ça, ils fassent le même job que Paul, aller en chercher d'autres, les exhorter, les instruire, pour nous amener à la perfection. Jésus n'a-t-il pas dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit? Il a commencé par dire, allez, faites-en des disciples de toutes les nations, mais après ça, enseignez-leur à observer. Pour quand tu observes, tu es rendu parfait. C'est le but. Amen. La puissance de Dieu est en action quand le peuple de Dieu grandit. L'Église s'accroît par l'assistance du Saint-Esprit.
Amen. Gloire à Dieu.
Nous combattons aussi le combat dans la prière pour faire l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dans Romains 15, 30, Paul dit, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Fait qu'un saint chrétien, je ne sais pas quoi faire combattre, commence à prier. Prie pour les frères et sœurs. Prie pour le pasteur, les enseignements, prie pour l'Église, prie pour les gens dans leurs problèmes, prie pour l'œuvre, l'évangélisation, puis tout ce qui était fait. Prie. Quand on prie, nous sommes en train de combattre. C'est un des combats, ça prend des combattants là, comme ça prend des combattants qui vont sonner à la porte, qui vont donner des pamphlets. Les combats sont diversifiés. Si vous n'êtes pas capable de vous déplacer pour y aller, priez, insistez. La prière, c'est un combat, on l'a dit aussi dans l'étude de la prière. C'est comme l'œuvre de Dieu avance en raison des prières qu'ils sont mis. Si on ne prie pas, il ne se passera rien. Dieu n'agira pas. Dieu va agir, puis il nous demande de le faire. Combattez, résistez. Il y a tout ce qui est là, prions pour ces genres de combats-là. Puis si on n'a pas à cœur de prier, prions Dieu qui enlève de notre cœur ce qui nous empêche de prier. Des fois, il y a des blessures, des fois, c'est des péchés, parce que quand on attriste le Saint-Esprit, on n'a plus la force de faire ce qu'on on devrait faire. Fait qu'il faut trouver le bobo et le remettre dans les mains du Seigneur pour qu'il nous guérisse, pour qu'on revienne en feu pour le Seigneur. En tant que soldats, nous avons des ordres pour accomplir une mission. Nous sommes appelés à répandre la vérité. Dans 2 Timothée 2, 1 à 3, Paul, il parle à Timothée, il dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Êtes-vous des soldats de Jésus-Christ?
Amen.
Ben, souffrez avec ceux qui sont en train déjà de travailler. Ce que vous avez appris, confiez-les à d'autres qui seront capables après ça de le transmettre à d'autres. Ça fait partie de notre combat de répandre le message de l'Évangile puis de parler de ce qui est de la volonté de Dieu, de la pensée de Dieu. Dans la vie chrétienne, en tant que soldat, il y a de la discipline. Ça prend de la discipline. Je revois les entraînements militaires. On a parlé un peu au début de l'avant-réunion. Le premier 6 mois d'entraînement militaire, là, c'est quelque chose. Tu rushes, tu cours, puis tu fous en top shape. Mais spirituellement, c'est un peu pareil. Il y a de la discipline, il y a des règles, il y a des combats, il y a du travail à faire avant de recueillir des fruits. Dans 2 Timothée 2, les versets 4 à 7, il nous dit, « Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Fait qu'il y a du renoncement à soi-même quand tu es chrétien. Il dit, « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu contre les règles. » Ça veut dire, si tu veux remporter la victoire, il faut que tu marches selon les règles qui sont établies dans la parole. Fait que t'es un soldat, t'as une discipline, il y a des règles à suivre, si tu veux remporter. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Tu veux des fruits? Tout le monde en veut des fruits. Travaille. T'as un effort à faire en tant que soldat. T'as pas tout cuit dans le bec. C'est vrai que Dieu va le faire, mais Dieu va le faire comment? À travers nous. Il dit, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment est-ce qu'il y aura des prédicateurs s'ils ne sont envoyés? Voyez-vous, ça prend des gens qui travaillent. On veut récolter des fruits, on veut que l'Église grandisse, il faut travailler avec le Seigneur. Puis là, il veut nous faire apporter des victoires, il veut, mais il dit, fortifie-toi, puis mets-toi à l'œuvre. Vas-y. Il ne faut pas tout le temps attendre que les autres le fassent. On voit quelque chose, le Seigneur nous montre quelque chose, autrement dit. Faisons-le. Impliquons-nous. Il y a du renoncement. Il y a des règles à suivre. Il y a du travail à faire pour récolter, que ça nous dit ce verset-là. Il dit, l'apôtre Paul, il rajoute, « Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toute chose. » Mais comprends ce que je dis. Il faut comprendre qu'il y a ces efforts-là, ces règles-là à suivre. Puis il y a du travail à faire.
Amen.
On est des soldats, puis un soldat, c'est de la discipline, des règles, puis il y a des combats. Puis après ça, tu as les victoires. Amen.
Amen.
L'apôtre Paul à la fin de sa vie. Ouais. En 2 Timothée 4, 7, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, puis j'ai gardé la foi. Il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Soyons comme l'apôtre Paul. Puis il nous dit dans l'autre verset, laisse pas personne prendre ta couronne. Tu vas être couronné, mais garde la foi jusqu'à la fin. Combat le bon combat, puis achève la course. Amen.
Amen.
Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous encourage au point de vue de qu'on est des soldats, puis qu'on a une arme, des armes et de la puissance de Dieu à notre disposition, et que tu marches au-devant de nous, puis tu vas nous faire remporter les victoires, parce que tu combattras pour nous. Mais donne-nous aussi de comprendre notre part de travail, de responsabilité, suivre tes règles, puis d'avancer dans cette marche, dans cette lutte, dans cette guerre. Puis merci d'avance pour les victoires que tu vas nous donner. Nous reconnaissons que c'est toi qui vas les faire. On veut te rendre la gloire en toute chose dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.